Et donc, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu et on va continuer dans notre livre des Actes. Et ce matin, ça va être un petit peu en deux volets. Donc, on va faire un premier volet court et puis un deuxième volet. Donc, on va commencer avec une première lecture. Vous vous souvenez donc du message précédent. Paul et Silas sont jetés en prison suite au fait qu'ils ont délivré cette femme qui était possédée par un mauvais esprit. Et donc, on va reprendre acte 16 et on va lire les versets 25 à 26. Donc, Paul et Silas sont en prison. Verset 25. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et on va s'arrêter ici. Je vous ai dit 25 et 26 et j'ai poursuivi. Et j'aimerais commencer ce matin en mettant l'accent sur l'attitude de Paul et Silas alors qu'ils sont emprisonnés pour leur foi. Donc, c'est ici deux chrétiens, deux hommes qui étaient fidèles et ils n'étaient pas dans une vie de désobéissance, ils n'étaient pas dans une vie de frivolité avec le monde, ils n'étaient pas dans l'infidélité, non, ils étaient plutôt, au contraire, sur la brèche, ils étaient en train de combattre et c'est la raison aussi de leur épreuve. Ils étaient en train de servir le Seigneur quand, eh bien, on les a pris et on les a jetés en prison du fait de leur témoignage et de ce qu'ils faisaient pour le Seigneur. Et beaucoup seraient complètement abattus d'être dans cette situation, dans leur situation. Mais eux, on voit, vers le milieu de la nuit, ils prient et ils chantent des cantiques alors qu'ils sont en prison. Et leur attitude est finalement la manifestation de leur foi, de leur confiance en Dieu au milieu d'une grande épreuve. Et en lisant cette histoire, on voit en filigrane, en image, la puissance et l'importance de la prière. Qu'est-ce que peut faire la prière et qu'est-ce que peut faire nos louanges à Dieu? Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé ce jour-là dans la prison à Philippe, eh bien, ça va encore se passer et ça se passe encore aujourd'hui d'une manière spirituelle dans nos vies. La prière, c'est toujours ce qui permet que tout change. Et pour les enfants de Dieu qui sont fidèles, qui prient, qui combattent pour leur Seigneur, il ne faut pas perdre de vue que c'est toujours là notre attitude, celle que nous devons avoir. Prier, chanter, avoir confiance. Et j'aimerais qu'on voit trois courtes choses. D'abord, ce sont les prières et les louanges que nous adressons à Dieu qui ébranlent les fondements de la prison. C'est ce qui s'est passé ici pour l'apôtre Paul et Silas. Et ce sont aussi nos prières et nos louanges qui vont faire fissurer les fondements, je peux dire, des raisonnements de ce siècle, en fait. Pourquoi? Parce que je faisais un petit peu le parallèle, j'irais réfléchissais. Et je me disais, mais il y a des prisons ici, autour, des prisons qui ne sont pas avec des murs visibles, mais c'est des prisons dans les raisonnements qui retiennent les gens captifs. Qu'est-ce qui retient prisonniers aujourd'hui? Il y a plein d'idées fausses, plein de mensonges, plein de préjugés, de critiques. Pourquoi il y a tant de Français qui sont athées et qui sont si peu ouverts à la parole de Dieu? C'est à cause de beaucoup de choses, de mensonges qu'on a échafaudés pour détruire la foi finalement, pour détourner les gens de la Bible en sorte qu'on ne lit pas la Bible et on ne s'y intéresse pas. On entend réellement toutes sortes de choses pour dissuader les hommes de lire ou de croire ou de recevoir Jésus-Christ, de s'approcher de lui en entrant dans une église et écouter la parole de Dieu. Alors je vous donne des pensées, hein. L'évolutionnisme, donc on descendrait du singe, le relativisme, tout est vrai, il y a plein de vérités, chacun a sa vérité. L'athéisme, où on nie la pensée de Dieu. Le sectarisme aussi, dans l'idée que l'on se fait du christianisme. Voilà, on enferme, on cloisonne. Ça, c'est comme des forteresses qui retiennent les gens dans des prisons. Mais avec l'apôtre Paul, on peut dire, comme il a dit ailleurs, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » On peut renverser les raisonnements. Comment ? Ben par la prière et par la louange, c'est-à-dire par l'expression de notre foi, de notre confiance en Dieu. Dieu rémunère, Dieu honore quand on lui fait confiance. Ensuite, la deuxième chose que je voyais dans ce passage, c'est que par les prières et par les louanges que l'on adresse à Dieu, les portes s'ouvrent. On a lu dans le texte, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. C'est incroyable ça. Toutes les portes s'ouvrirent. Et on peut dire que la vie, elle est faite de portes qui sont fermées ou de portes qui sont ouvertes. Il y a constamment plein de portes. Et il semble parfois que toutes les portes soient fermées devant nous. Paul et Silas étaient gardés dans la prison intérieure, il est dit. Donc, il y avait des cellules, il y avait la prison, je dirais peut-être extérieure, je ne sais pas, mais il y avait des cellules qui étaient plutôt sur le pourtour et il y avait la prison qui était intérieure, c'est-à-dire c'était l'endroit le mieux gardé. On peut imaginer, je ne sais pas, une sorte de cave, hein, avec tout un tas de portes et de verrous et de barreaux pour atteindre la liberté. Et parfois, c'est le cas. Il y a plein de portes, de verrous, de choses qui semblent... On ne peut pas avancer, on est bloqué et on se sent à l'étroit. On se sent enfermé. Ben, de nouveau, c'est la prière, hein, c'est la louange, c'est la confiance qui peut faire que les portes s'ouvrent et que ça se débloque, que les verrous sautent. Et puis, une troisième chose, hein, c'est pour finir, par les prières et par les louanges des enfants de Dieu, les prisonniers trouvent la liberté. Et on n'est pas complètement impuissant devant les personnes qui sont prisonnières autour de nous. Dieu nous donne une arme encore efficace, c'est la foi et la confiance. En priant, en chantant des cantiques, eh bien, on manifeste la foi qui libère les captifs. Là encore, je trouve très fort, il est écrit, « Les liens de tous les prisonniers furent libérés. » Pof, les ceps, pof, tout a sauté comme cela. C'était un vrai miracle. C'est jamais facile et c'est jamais c'est jamais facile de chanter, de prier quand on est en plein dans l'épreuve. Quand on vit quelque chose de difficile, c'est pas facile. Et j'imagine que les autres prisonniers qui entendaient Paul et Silas chanter dans leur cellule devaient se dire mais qu'est-ce qui se passe quoi ? Ils avaient jamais vu ça. Eux étaient malheureux, mais ils chantaient des cantiques, hein, ils manifestaient de la joie et de la confiance en Dieu. Et Dieu nous demande de manifester de la foi. Et c'est justement quand on se sent enserré, prisonnier, retenu, parfois prisonnier soi-même, et où que l'on voit les autres prisonniers, ben c'est là où il faut manifester de la foi. Et il faut dire, Seigneur, je vais croire, je vais faire confiance, hein, je vais te chanter des cantiques, espérance et foi. Voilà pour le premier volet. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet. On va reprendre acte 16 et on va lire versets 27 à 34. Et j'aimerais juste prier avant. Père éternel, merci. Merci de ta parole que tu nous as laissée, Seigneur. C'est un trésor. C'est une bénédiction, Seigneur. Et nous savons que c'est ton esprit qui la rend vivante à nos yeux et à nos cœurs. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est ta parole qui nous est donné par la grâce, hein, et c'est par ton esprit que tu l'appliques dans nos vies, que tu nous transformes, que tu nous perces, hein, que que tu nous montres des choses, que tu nous révèles ta personne. Père, bénis ta parole. Nous te le demandons ensemble. Bénis-la à cause de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Amen. On va lire donc les versets 27 à 34. Chapitre 16, verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc, dans cette histoire, ce récit, nous voyons ce geôlier qui va vivre cette scène avec effroi, avec peur. Et sa vie va littéralement basculer. Avec cet événement, il ne sera plus jamais le même. Finalement, c'est l'histoire d'une conversion. Il y a 20 ans, ce mot « conversion », je ne comprenais pas ce que cela voulait dire. Est-ce que vous savez ce que veut dire une conversion ? Se convertir à Jésus-Christ ? On va l'expliquer. Mais comment se produit une conversion ? Finalement, le texte nous l'explique. Comment cela arrive ? Est-ce qu'il y a un processus pour se convertir à Jésus-Christ ? Chaque homme est unique. Nous sommes tous uniques. Dieu nous a fait uniques. Il n'y a personne exactement comme vous. Ça signifie aussi que pour venir à Jésus-Christ, se convertir à Jésus-Christ, eh bien, chaque conversion est aussi unique. Elle a ses caractéristiques propres qui dépendent de la personne. Néanmoins, il y a souvent des points communs. Il y a souvent des choses qui sont semblables les uns avec les autres, d'un récit à l'autre. La première chose, c'est le tremblement de terre. Ici, il y a eu un tremblement de terre qui a ébranlé toute la prison. Ce geôlier, donc dans la ville de Philippe, il vivait tranquille dans sa ville et dans sa fonction de geôlier. C'était un surveillant de prison. De par sa nature, j'imagine, ou de par quelque chose qu'il avait acquis, c'était quelqu'un qui était dur, quelqu'un qui était rude. C'était nécessaire pour cet emploi. D'après ce qu'on lit au verset 24, il a jeté Paul et Silas dans la prison, donc ce n'était pas un tendre cet homme. Mais il va y avoir un grand tremblement de terre qui va ébranler sa vie finalement. Et ce n'est pas forcément le cas de tous, mais souvent, Dieu permet des tremblements de terre dans nos vies. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen pour qu'on écoute sa voix. Sinon, on n'écoute pas. S'il n'y a pas un tremblement de terre, ben, on vit et le temps passe et on vieillit. Il faut des tremblements de terre. Parfois, c'est le seul moyen de nous faire écouter la voix de Dieu. Beaucoup d'hommes vivent dans l'insouciance jusqu'à ce qu'il y ait un séisme dans leur vie. Et alors là, ils commencent à réfléchir. Ça va être un séisme dans leur travail, un séisme dans leur famille, dans leur couple. Un séisme parfois dans la vie sociale ou un séisme dans la vie personnelle. Au verset 27, on lit « Le geôlier se réveilla ». Donc, il était profondément endormi, là, dans sa prison. Il était insouciant, tout allait bien, paisible dans sa fonction, jusqu'à ce que la prison commence à se fissurer et à s'effondrer autour de lui. Et pour faire le parallèle, on peut dire que l'homme, aujourd'hui, l'homme, spirituellement, il est profondément endormi. Il dort. Alors certes, dans ce monde, on agit, on travaille, on fait des choses, on fonde une famille, on fait plein de choses, on est actif. Mais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'éternité, vis-à-vis des choses qui sont essentielles, des choses qui sont éternelles, là, l'homme dort. Il dort. Et ce sont les tremblements de terre qui permettent, qui se réveillent. D'un seul coup, il se réveille. Et il commence à lever les yeux en haut et à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Quand je dis un séisme dans notre vie, je ne parle pas d'une petite épreuve. Je ne parle pas, vous avez perdu votre portefeuille. Ce n'est pas ça, un séisme dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est vraiment pesant. Quelque chose qui vous retourne complètement. Regardez verset 27. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Et là, on voit la nature de son séisme. Le chef de la prison était prêt à se donner la mort, tellement l'heure était grave pour lui. Plutôt que d'être pris par ses supérieurs et exécuté parce qu'il avait mal fait son travail, ou torturé, ou je ne sais pas, que sais-je, il préfère se suicider. C'est vraiment grave. Il a une famille, mais non, il préfère se suicider. Il était dans une situation, pour lui, c'était insurmontable. C'était la pire des choses qui pouvaient lui arriver. Et c'est parfois un électrochoc dans notre vie qui, d'un seul coup, ça nous réveille. Ça nous réveille. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Donc le geôlier entend une voix forte. Parfois on a besoin que Dieu nous parle avec force pour qu'on réagisse, sinon on ne réagit pas. Il entend une voix forte, mais c'est une voix aussi qui va l'amener à ne pas commettre l'irréparable. C'est la voix de, finalement, qui est Paul ? La voix d'un enfant de Dieu qui l'empêche de se faire du mal. C'est une voix qui va lui redonner de l'espoir. C'est une voix qui va l'apaiser. Et si Dieu permet un séisme dans notre vie, ce n'est pas pour nous porter préjudice. Dieu ne nous veut pas du mal. Dieu nous veut du bien. Dieu ne voulait pas que cet homme mette fin à ses jours, mais il voulait le sauver. Et si on sait écouter la voix de Dieu, que ce soit en prenant une Bible et en la lisant, ou bien que ce soit en entendant la Bible par un enfant de Dieu, par quelqu'un qui nous en parle, alors, eh bien, on va se relever. On va se relever de ce séisme. Et c'est ce que va faire le geôlier. Regardez verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. À cet instant, le geôlier, il aurait pu ne pas écouter cette voix forte. Paul lui a dit, ne te fais point de mal. Il aurait pu ne rien écouter et commettre quand même l'irréparable. Mais il a préféré écouter la voix, cette voix, la voix de la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il veut comprendre ce qui se passe. Il veut savoir ce qu'il est en train de vivre. Il veut savoir quelle est cette voix qui est en train de lui parler. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il demande de la lumière. Amenez-moi de la lumière. Il faisait sombre dans la prison. Mais spirituellement, c'est là ce que devrait faire tout homme. Il devrait demander de la lumière. Il se passe quelque chose. Je veux de la lumière. Je veux comprendre. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le geôlier tombe à genoux aux pieds de Paul et de Silas. Et vous savez, il y a plusieurs manières de réagir dans l'épreuve. Quand il vous arrive quelque chose de très dur, vous pouvez vous endurcir, devenir dur, amer, vous fermer. Vous pouvez aussi paniquer, c'est possible. Vous pouvez parfois devenir violent, c'est possible aussi. Ou vous pouvez commettre l'irréparable sur vous-même. Vous faire du tort, ou faire du tort aux autres, à ceux qui sont autour de vous. Mais vous pouvez aussi demander de la lumière. Qu'on me donne de la lumière. Oh Dieu, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de comprendre. Et vous avez besoin, on a besoin de tomber à genoux. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Dans un autre livre de la Bible, c'est le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon. On connaît Salomon, hein? Il a dit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc, au jour du malheur, ben réfléchis, réfléchis. On doit demander de la lumière, essayer de comprendre. Et bien évidemment, la lumière ne nous vient que de Dieu, que d'en haut. Et donc, c'est à genoux, humilié, humble, qu'on peut demander de la lumière. Versets 30 et 31. Le geôlier les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ici, il y a une chose qui est bien claire dans l'esprit de ce geôlier, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est qu'il est perdu et c'est qu'il a besoin d'être sauvé. Il ne comprend pas tout, hein. Sûrement, il ne comprend pas tout, mais il sait qu'il est perdu et il sait qu'il a besoin d'être sauvé. Ça, il l'a compris. Et vous savez, c'est la chose la plus importante que nous ayons à comprendre, que nous sommes perdus et que nous avons tous besoin d'être sauvés. Mais on n'en a pas réellement conscience, parce que c'est la vie. Il y a plein de choses à faire dans la vie. On a des occupations, on fait des choses, on construit, on se distrait. On a des problèmes aussi. La vie engendre beaucoup de difficultés. Il y a des responsabilités. Il y a plein de choses qui viennent se greffer. Et finalement, on oublie l'essentiel. On fait abstraction de l'essentiel. Le geôlier, il ne se posait pas de questions avant son séisme. Aucune question. Il semble que la chose la plus importante pour tous les hommes sur la terre, ben c'est d'être heureux. On va dire, ben c'est normal, hein. C'est un travail, une famille, de l'argent pour vivre, un peu de confort, hein. Et voilà, on est satisfait. Et souvent, l'homme ne va pas plus loin, il ne va pas aller chercher plus loin, il s'arrête là. Mais Dieu nous invite à réfléchir. Il dit, au jour du malheur, réfléchis. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui, c'est-à-dire ce qui se passe après, dans l'au-delà. Et si Dieu permet des choses qui sont vraiment douloureuses dans nos vies, des épreuves, des souffrances, c'est pour qu'on réfléchisse. Et c'est quelque chose qui est salutaire pour nos âmes. Ça nous invite à penser à l'éternité, à lever les yeux en haut. Maintenant, si on nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est pas forcément suffisamment explicite pour comprendre. Et pensez particulièrement à ce geôlier. Il ne connaissait strictement rien de Jésus, lui, à Philippe. Probablement, il n'en avait jamais entendu parler. Et même s'il en avait un peu entendu parler, il ne connaissait pas grand-chose de ce Jésus. Je me souviens, il y a longtemps, on m'avait donné une grosse pile de grandes affiches violettes avec un lettrage en jaune. Et c'était justement ce verset. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Nous croyons que Dieu peut sauver une personne par ce verset. C'est clair, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est comme une épée à double tranchant. Mais même avec un arrière-plan catholique, judéo-chrétien, ben ce verset, ça nécessite quand même des explications. Qu'est-ce que ça veut dire ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, eh bien, regardez verset 32. Paul et Silas lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Paul et Silas ont commencé à expliquer qui était Jésus-Christ et qu'est-ce que c'était que de croire en Jésus-Christ. Et Dieu, souvent, il se sert des chrétiens pour expliquer, mais comprenez qui est Jésus, comprenez ce que Jésus a fait pour vous. Il y a un autre exemple, c'est un petit peu avant dans les Actes, c'est l'eunuque éthiopien. Vous vous souvenez, il est dans son char, il redescend de Jérusalem, il repart en Éthiopie et il est en train de lire un rouleau du livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, il ne comprend pas. Et Dieu va envoyer un chrétien qui va monter dans son char, Philippe, et qui va lui expliquer la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Corneille ? Corneille, un petit peu avant dans les Actes, pareil. Il ne comprend pas tout, il ne sait pas tout. Et c'est l'apôtre Pierre qui va venir et qui va lui expliquer qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour lui. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? Alors, ça pourrait faire l'objet d'un message entier. Mais j'aimerais le résumer en prenant 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Si vous voulez prendre 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. 1 Corinthiens 15, verset 1, il est dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je veux les annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Et Paul, dans ce passage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'adresser donc aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe et puis aux personnes de Corinthe, et il va rappeler l'Évangile. Et c'est très intéressant. Quel est-il ? Alors, verset 3, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Qu'est-ce que c'est l'Évangile ? L'Évangile, c'est avant tout Christ. C'est ce qu'il dit ici. Ça commence comme cela. C'est le premier mot pour aborder l'explication. Il dit « Je vous ai enseigné avant tout que Christ. » Christ. L'Évangile, c'est d'abord comprendre que Christ est au centre et qu'il devrait être au centre de notre vie. Christ est au centre. Il est le Fils de Dieu. Il est au centre. Pourquoi il est au centre ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui puisse vous sauver. Personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui ait donné sa vie pour vous. Est-ce que quelqu'un est mort pour vous ? Personne d'autre n'a donné sa vie pour vous. Il n'y a personne d'autre qui puisse vous pardonner vos fautes. Qui peut vous pardonner vos fautes ? Est-ce que quelqu'un peut réussir à laver votre cœur et vous pardonner vos péchés ? Il n'y a personne. Mais Christ le peut. Il n'y a personne d'autre qui puisse vous garantir la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un ici peut vous promettre la vie éternelle ? Personne. Jésus-Christ le peut. Christ est au centre de la bonne nouvelle de Dieu. L'Évangile, il est christocentrique. Jésus est vraiment au centre. Paul dit ensuite, « Je vous rappelle que Christ est mort pour nos péchés. » Est-ce qu'on peut comprendre cela ? Vous savez, pour ce geôlier, il avait vu des centaines d'exécutions. Que un Jésus fut exécuté à Jérusalem quelques années plus tôt, ça n'avait pas de sens pour lui. Un homme de plus qui avait été exécuté, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il fallait qu'il comprenne que cet homme qui avait été exécuté était mort pour ses péchés. Et ça change tout. Ce n'était pas juste un homme qui était mort. C'était quelqu'un qui était mort pour lui. Si personne n'avait péché sur cette terre, mais Jésus-Christ ne serait jamais mort. Il n'y avait pas de raison de mourir. Il ne serait pas descendu sur terre pour mourir pour nous. Mais parce que nous avons tous péché et parce que nous avons tous besoin du pardon de Dieu, alors Jésus-Christ a dit, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et il est descendu et il s'est incarné dans un corps, une chair comme la nôtre, et il est allé volontairement jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés. Paul écrit, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » C'est important, selon les Écritures. C'est la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu qui affirme avec force Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais aussi, le « selon les Écritures », ça fait référence au fait que Dieu avait déjà dit des milliers d'années auparavant que Jésus-Christ allait mourir pour les péchés des hommes. Et vous savez, c'est très fort. Avant que Jésus meure, Dieu l'avait déjà dit. Et c'est authentique. Hein. Si vous cherchez, vous allez trouver. Hein. C'est clair. C'était écrit dans l'Ancien Testament qui avait été écrit avant Jésus-Christ. Donc, la mort de Jésus prend racine dans les Écritures de l'Ancien Testament. C'était déjà là. Sa mort, ce n'est pas une mort au hasard dans l'histoire. Ce n'est pas qu'un homme qui était particulièrement bon avec son prochain, malheureusement, a été arrêté par les Romains et puis ils l'ont fait exécuter parce que les Juifs les poussaient à la haine contre lui. Ce n'est pas juste une histoire comme celle-là. Mais sa mort, elle était déjà écrite à l'avance par Dieu parce qu'il a poussé les prophètes à écrire. Et si vous ne vous êtes jamais penché sur les prophéties qui concernent Jésus-Christ, je vous invite à le faire. Si vous avez des doutes sur la personne de Jésus, demandez-moi, je vous donnerai une liste de prophéties, vous pourrez aller voir vous-même et voir que c'était déjà écrit avant que cela n'arrive. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et l'Évangile, c'est une autre chose, l'Évangile c'est la résurrection. Si un homme, n'importe quel homme, vous promet le ciel, les clés du paradis, s'il vous promet que vous allez traverser la mort, qu'elle ne vous fera rien, s'il vous dit qu'il sait déjà ce qu'il y a dans l'au-delà, il commence à vous le décrire, et qu'un beau jour, il meurt comme tous les autres hommes, alors bien vous êtes en droit de vous poser des questions et de penser... Mais est-ce que c'est bien sûr? Est-ce que ce qu'il m'a dit, c'est vrai? Mais Jésus, il n'a rien promis qu'il n'a vécu lui-même. Ce qu'il a promis, il l'a vécu. Il est mort et il a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort. Il est ressorti vivant, puisqu'il est ressuscité. Alors quand il dit... « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Ce n'est pas du vent. Ce n'est pas une parole en l'air. C'est du vécu. Il a triomphé. Alors, il peut dire ça. « Je l'ai fait. Croyez-moi. Je vous donnerai la vie. Vous aurez la vie. » Et Dieu voulait qu'on écarte de notre pensée tout doute au sujet de la résurrection. Pourquoi ? Parce que Paul dit ici, versets 5 et 6, « Ensuite, Jésus est apparu à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Et l'Évangile, vous savez, c'est aussi quelque chose qui est authentique et véridique. Il y a eu des centaines de témoins de la résurrection. Si quelqu'un voulait des preuves, quand l'apôtre Paul était en train d'expliquer l'Évangile, ben il suffisait qu'il prenne un bateau, qu'il aille à Jérusalem. Et il pouvait parler à des centaines de témoins qui avaient vécu toutes ces choses, qui avaient vu Jésus-Christ ressuscité. Il l'avait vu crucifié et ressuscité le troisième jour. L'Évangile est christocentrique. Jésus-Christ est au centre. L'Évangile est salvateur, il sauve, parce qu'il n'y a que Jésus qui est mort pour vos péchés. Il n'y a donc que lui qui peut vous accorder le pardon de vos péchés. L'Évangile s'appuie sur les Écritures de l'Ancien Testament. C'est vérifié, on peut le lire aujourd'hui. L'Évangile, c'est une promesse de vie, une promesse de résurrection que Jésus pouvait nous donner parce qu'il est ressuscité. Et l'Évangile, c'est véridique, authentifié par sa résurrection et par les témoins. Donc, tout cela, c'est ce que Paul a expliqué au geôlier et à sa famille. On a lu ensemble, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Comment le geôlier va réagir ? En fait, il va réagir en croyant. Il va saisir le salut en Jésus-Christ. Paul lui avait dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et en entendant qui était Christ, ce que Christ avait fait pour lui, alors il a cru. Il a adhéré avec son âme, avec son cœur. Immédiatement, il était sauvé. Il avait la vie éternelle. Il était pardonné de ses péchés. Il était enfant de Dieu. Sauvé, vous me dites, mais c'est merveilleux, mais est-ce qu'il y a un moyen de voir que quelqu'un est sauvé ? Comment peut-on dire qu'on est sauvé ? Le texte nous montre cette réalité. Regardez verset 33. Le geôlier les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Et j'aimerais qu'on voit maintenant une triple preuve du salut de ce geôlier. La première chose, c'est qu'il va montrer la réalité de son salut par un changement de comportement. Ce geôlier, c'était un homme violent. Il avait pris Paul et Silas, jeté dans la cellule, mis les fers aux pieds. Il fallait qu'il soit un homme violent pour être geôlier. Et là, il est transformé, il devient infirmier. Il va chercher un seau d'eau, des bandelettes, et il commence à nettoyer les plaies, et il devait avoir des plaies. Croyez-moi, ils avaient été battus avec des coups. Il avait mis lui-même ses fers aux pieds qui probablement leur avaient abîmé les chevilles. Il a nettoyé. C'est plus le même homme. Et la conversion à Dieu entraîne nécessairement un changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de conversion. Regardez avec moi 1 Jean 3, 7 à 10. 1 Jean 3, versets 7 à 10. Il dit, donc c'est l'apôtre Jean, donc l'épître de Jean est juste avant l'Apocalypse, hein, pour situer, c'est une petite lettre, 2-3 pages. 1 Jean chapitre 3, versets 7 à 10. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et ici, dans ce passage, l'apôtre Jean nous révèle un indice pour reconnaître un vrai enfant de Dieu. Celui qui est vraiment converti à Jésus-Christ, il ne pratique plus le péché. Ça signifie qu'il ne pratique pas, dans le grec, qu'il ne pratique pas d'une manière habituelle le péché. L'enfant du diable, il ne change pas. L'enfant de Dieu, il change. Il va changer de comportement, il va changer d'attitude vis-à-vis de son prochain, et même, il va s'étonner lui-même de se voir changer. Il va se dire, mais avant j'aimais ça, et j'aime plus. Avant je faisais ça, et j'ai même plus envie de le faire. Il s'étonne du changement que Dieu est en train de faire dans sa vie. Il se surprend à être ce qu'il n'a jamais été. La conversion à Dieu, quelqu'un qui est vraiment converti, ça nous amène à nous humilier pour nos péchés du passé. Parfois, on va aller demander pardon. On va aller retrouver quelqu'un. Je me souviens être allé voir des amis de longue date. Bon, on avait gardé une amitié, il n'y avait aucun problème entre nous. Hein. Mais il y avait des choses, je me disais, j'ai pas bien agi. Je suis allé le voir, je lui ai demandé pardon. Lui, il m'a regardé comme ça. Qu'est-ce qui te prend ? Mais quand on se convertit à Dieu, on change. On change. Parfois, on a envie de réparer aussi. Parce qu'on a brisé quelque chose. Si c'est réparable, on a envie de réparer. Pourquoi ? Parce que celui qui est né de Dieu, il a vécu la nouvelle naissance, il ne pratique pas ou ne pratique plus le péché d'une manière habituelle. Il n'a plus envie de continuer à pécher. Pourquoi ? Mais le texte dit parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est-à-dire que la semence de Dieu n'était pas en lui, et la semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça n'était pas en lui. Mais quand il s'est converti, la semence de Dieu est entrée en lui. Et alors, à cause du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en lui, il change, il est poussé, poussé à faire le bien, poussé à se réconcilier. Il change. Il a envie de faire le bien plutôt que le mal. Ainsi, le changement de vie d'une personne, c'est révélateur de son changement de nature à l'intérieur. Et si sa vie ne change pas, alors ben, il n'est pas enfant de Dieu. Et ça se voit. Hein. Jésus a dit, je vous cite les évangiles, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les fruits de ce geôlier ici, maintenant ils étaient bons. Il avait des bons fruits, ça se voit. Quelque chose s'était passé dans son cœur, dans sa vie, il l'avait vraiment reçu. Et vous savez, l'image que Jésus prend dans les évangiles, quand il parle de cet arbre qui porte du fruit, c'est très important. Vous plantez un arbre, vous n'avez rien à faire pour que le fruit vienne. Vous le plantez, il faut juste un peu de pluie, du soleil, et le fruit vient de lui-même, ça sort. Bon, ceux qui font la taille me diront, petite taille, ça aide quand même. Hein. Mais ça signifie qu'on ne peut pas fabriquer le fruit. Le fruit de Dieu, ça vient tout seul. Et vous savez, si quelqu'un fabrique le fruit, ça se voit. Vous voyez que c'est artificiel. Vous voyez qu'il y a de l'hypocrisie. Vous voyez que ce n'est pas naturel. C'est évident, c'est évident. Vous connaissez le proverbe, hein ? Chasser le naturel, il revient au galop. Et quand on essaie de maquiller le naturel, plutôt que de s'en repentir et crier à Dieu, « Sauve-moi !» parce qu'on est tous pécheurs, hein, que personne ne s'y méprenne. Mais si on ne fait pas ça, mais on le cache en essayant de faire des beaux fruits, ben ça se voit. Alors que celui qui accepte Jésus-Christ, il change par la puissance du Saint-Esprit, par la semence de Dieu. Ça ne signifie pas qu'il devienne un chrétien parfait du jour au lendemain ou dans la minute qui suit, mais il y a un changement. Il y a un vrai changement. C'est évident, c'est notoire. Et ce changement, il ne fait que s'accentuer au fur et à mesure de son obéissance, de sa marche, de sa sanctification dans la vie. Et les fruits poussent naturellement, ça sort, c'est logique, c'est facile. Parce que les bons fruits, ça fait partie de cette nouvelle nature que Dieu a mis dans le cœur de l'enfant de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour ce geôlier. Spontanément, il a pris de l'eau, il a nettoyé les plaies de ces deux prisonniers. Première chose. Deuxième chose. La deuxième preuve d'un salut qui est réel, ici, ça va être un baptême. Le geôlier et sa famille ont compris qu'il fallait obéir à Jésus-Christ qui dit qu'il faut être baptisé en son nom. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils demandent le baptême. C'est comme le nuque éthiopien. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Je crois. Alors, eh bien, descends dans l'eau. Le baptême, qu'est-ce que c'est? Le baptême, c'est le témoignage extérieur d'une réalité intérieure. Si vous avez vécu la nouvelle naissance, alors, eh bien, vous le montrez à l'extérieur par le baptême. J'ai cru, je suis sauvé, alors je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas avoir peur d'obéir au commandement de Dieu, je vais écouter la voix du Seigneur, je vais obéir. À noter toutefois que le baptême au nom de Jésus-Christ, à l'époque, avait certainement une signification plus forte et différente qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos pays largement christianisés dans tous les sens, hein, on peut recevoir le baptême sans jamais rien comprendre au baptême, sans même imaginer ce que ça signifie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on explique comme il faut ce qu'est le baptême avant de baptiser une personne. Mais le baptême, c'est un signe fort de la réalité de notre foi, ou ça peut être un signe fort de la réalité de notre foi. Si j'ai cru, alors eh bien, je vais obéir, je vais descendre dans les eaux du baptême. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est accepter la seigneurie de Jésus-Christ. Je me plie. Jésus dit, tu crois? Descends. Seigneur, oui, j'accepte la seigneurie. Je me fais baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Troisième chose, troisième preuve d'un salut qui est réel, c'est la joie. Regardez verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, encore une preuve de son changement, de sa bonté, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et c'est une autre caractéristique de quelqu'un qui est sauvé au nom de Jésus-Christ, c'est que la joie inonde son cœur. Il sait qu'il est sauvé et il sait qu'il connaît maintenant Dieu. Il a une vraie relation avec Dieu. Avant, Dieu était un inconnu. C'était, voilà. Oui, je prie. Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il va répondre? Je ne sais pas. Mais je prie. Et Dieu est abstrait, complètement abstrait. Mais une fois qu'on se convertit à Jésus-Christ, il devient proche, réel. Il est là, on le sait. Et ça nous procure une joie qui nous remplit. C'est comme échapper à une menace. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu donc un homme qui a été sauvé miraculeusement. Son bateau s'est retourné, il a commencé à couler, et il s'est retrouvé en pleine mer, dans la mer du Nord, ou le nord de l'Atlantique. Et à ce moment-là, il y a un large canoë à rame avec, je pense, 4 ou 5 jeunes Anglais qui étaient en train de ramer, qui arrivaient au milieu de la mer comme ça. En fait, ils étaient en train d'essayer de battre un record. Ils voulaient faire le tour de je ne sais pas quoi, quel trajet. Et ils voient cet homme-là au milieu de la mer. Imaginez, vous jetez une bouée, mais vous y accrochez. Oh, vous montez dans le bateau et après, oh, la joie, la joie. Ben c'est ce qu'avait vécu le geôlier. Il se dit, mais oh, quelle joie de connaître Dieu, d'être en sécurité, d'être sauvé. Il s'est réjoui avec toute sa famille. Il était pardonné. Il n'y a rien de plus beau, vous savez, quand la conscience est lavée, purifiée de nos péchés. Et Dieu maintenant était quelqu'un de proche. L'Esprit de Dieu témoignait à son esprit qu'il était enfant de Dieu. Si vous prenez acte 8, l'eunuque éthiopien, ben c'est ce qu'il a vécu. Il s'est converti à Jésus-Christ et je vous lis le verset. « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. » Il était dans la joie. « Je suis sauvé !»
Je suis sauvé. La paix profonde.
Ça s'est passé très vite pour lui. Hein? Peut-être en une heure, j'en sais rien. Il était là en train de lire la Bible, il ne comprend rien. Dieu lui envoie Philippe, Philippe lui explique. Il comprend qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour lui. Il croit en Jésus-Christ. Oui, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Oh, Dieu, je crois en toi. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Bon, il y a de l'eau. Ben, vas-y, on descend dans l'eau. Et hop, il le baptise. Il repart dans la joie. En une heure de temps ou deux heures, c'était un enfant de Dieu. Il était sauvé. En 1994, j'ai prié pour que Dieu me pardonne mes péchés. J'ai donc donné ma vie à Jésus-Christ. Et je peux vous assurer que dans les heures qui suivirent, dans les jours qui suivirent, dans les semaines qui suivirent, et même dans les mois qui suivirent, j'étais dans une joie sur un nuage. J'étais vraiment transporté par la joie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ma mère. J'ai pris position devant ma mère en disant, mais ça y est, Dieu m'a sauvé. Bing. Ma mère m'a regardé avec des yeux comme ça. Je suis sauvé, pardonné, et je vais me faire baptiser. Prise de position. Et une chose est certaine, c'est que j'ai changé. Ma vie a changé. Et vous savez, on ne peut pas être sauvé si on ne retrouve pas ces choses dans la vie d'une personne. Un changement de comportement, un vrai changement, parce que la semence de Dieu demeure en soi, une prise de position qui nous pousse à nous faire baptiser, à obéir au Seigneur, et puis la certitude d'avoir fait le bon choix, qui se traduit par de la joie, une grande joie dans le cœur. On arrive à la fin de ce message. Il est dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Simplement crois au Seigneur Jésus, crois qu'il est mort pour tes péchés. Donne-lui ta vie par une prière et Dieu te sauve. Si tu crois, alors eh bien tu verras la gloire de Dieu. On va s'incliner dans la prière.